qu'est-ce que tu écoutes comme musique?
Ah, c'est vachement, c'est la question la plus dure du monde.
C'est une bonne question. J'écoute plein de choses. Ça dépend des jours, ça dépend du temps, ça dépend des moments.
J'écoute plein de choses. J'écoute tout ce qui passe à Radio Campus Paris. Sinon, j'écoute du jazz, de la musique classique, du rock, de la musique du monde, comme on dit. Plein de trucs.
J'écoute de la chanson française, pas mal, et du rock metal aussi. Les deux.
J'écoute à la fois de la pop, de la variété française beaucoup, et puis de la musique du monde.
Comment tu choisis ce que tu vas écouter ?
Alors, en général, je choisis pas, en fait, c'est ça mon problème. C'est que j'écoute beaucoup ce qu'écoutent les autres.
J'ai plusieurs trucs, soit c'est le bouche à oreille, les copains qui disent écoute ci, écoute ça, mais sinon j'ai quelque chose que j'aime bien faire, c'est dans les médiathèques, je prends des CD un peu au hasard. Souvent, ils ont des stands de nouveautés, donc je pioche là, ensuite en fonction des pochettes, et tout ça. Et c'est, je me laisse souvent prendre par le hasard et souvent je file, des fois j'aime pas, mais souvent la pêche elle est bonne et c'est après comme ça que je choisis ce que j'écoute en fait, un peu par le hasard.
Ouais, je choisis pas. Enfin, on me conseille beaucoup.
Quand ça me vient dans la tête, je dis tiens, ça fait longtemps que j'ai pas entendu ça, si je l'écoutais.
Pourquoi tu écoutes de la musique ?
Parce que ça me détend. Parce que ça me fait. Rêver. Est-ce que ça me fait voyager? Je sais pas, plein de trucs.
Est-ce que, alors que j'adore le silence, ça va parfois compléter mes réflexions, compléter l'ennui aussi, ça remplit l'ennui un peu la musique parfois, et puis parce que c'est plein de belles choses quoi, la musique. Voilà.
Parce que sans musique, la vie elle serait nulle. C'est un peu ça. Fin... Pour moi, en fait, moi, je suis aussi musicien d'un côté et je considère un peu ça comme une drogue. Il y en a qui sont accros aux cigarettes, ils ont besoin de fumer. D'autres prennent d'autres drogues ou d'autres alcool. Moi, s'il n'y a pas de musique, en fait, ça va pas, quoi. J'ai besoin d'avoir une petite dose de musique régulière pour rester, pour pouvoir entendre ce qui se passe à côté et pour être bien. C'est un peu un besoin vital, en fait.
Déshabillez-moi, déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite, pas trop vite. Sachez me convoiter, me désirer, me captiver.
Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans Déshabillez-moi, le striptease philosophique de Radio Campus Paris. Elle accompagne nos jours et nos nuits, pénètre dans notre intimité comme elle se diffuse dans les lieux publics. Elle peut être appréciée individuellement ou à plusieurs et s'adapter à notre humeur festive, mélodramatique, enjouée, lente, dynamique, populaire ou savante. Elle hérisse nos poils ou blesse nos oreilles. Tantôt rassembleuse, tantôt source de divergence, il est difficile de lui échapper. Quand elle ne s'impose pas à nous, nous la choisissons. Si la musique a accompagné toute l'histoire de l'humanité, elle demeure cependant peu estimée par la philosophie, qui ne la considère pas comme un objet d'étude à part entière ou qui la catégorise, avec Kant par exemple, comme un art secondaire. Je cite « La musique produit une agréable jouissance personnelle. En revanche, si l'on estime la valeur des beaux-arts d'après la culture qu'ils procurent à l'âme, et si l'on prend pour critère l'extension des facultés qui doivent coïncider dans le jugement pour produire des connaissances, la musique sera reléguée au dernier rang des beaux-arts. De ce point de vue, les arts de l'image la dépassent largement. » Pour Kant, non seulement la musique ne permet que difficilement à l'âme de s'élever, mais a en plus le vice de manquer d'urbanité, dans le sens où ses effets dépassent la limite qu'on voudrait lui assigner, elle s'impose et porte préjudice à ceux qui n'appartiennent pas à la société de musique. Ce qui n'est pas le cas des arts qui s'adressent à l'œil, puisqu'on peut toujours détourner son regard. Si les moyens d'écoute ont changé depuis Kant et qu'il existe même aujourd'hui des concerts au casque qui règlent définitivement la question du bruit, il semblerait qu'il soit impossible de détourner ses oreilles de la musique qui est devenue la forme culturelle de masse par excellence. Elle se diffuse à travers tous les supports médiatiques et communicationnels, elle se partage sur les réseaux sociaux et fait vendre. La musique est devenue la chose du monde la mieux partagée et pourtant elle divise. Musique savante et musique populaire, musique de classe, musique élitiste, musique de vieux, boum boum de jeunes, musique de drogués, musique de meufs. Elle a su aussi bien séduire les philosophes, comme notre invité, que les ménagères de moins de 50 ans, et est en ce sens un objet d'étude absolument fascinant. Entre le rejet de l'industrie culturelle définie comme un processus rationalisé de domestication des masses et la défense de la qualité esthétique de la musique populaire, la philosophie a pu s'approprier ce terrain de recherche. Que dit la philosophie de la musique? Comment la pense-t-elle? Comment la dit-elle? Comment l'écoute-t-elle? Et surtout, comment l'une et l'autre peuvent-elles s'enrichir? Vous l'aurez compris, ce soir, c'est la musique que nous déshabillerons avec notre invité, dont nous vous dévoilerons le nom à la fin de l'émission. Et je laisse tout de suite la parole à Anaïs qui va démarrer l'entretien en fanfare, s'il vous plaît.
Oui, en fanfare, on va essayer, c'est pas sûr. Alors, donc, on ne dit rien évidemment de l'identité de notre invité, mais on va commencer donc cette émission sur la musique par se demander, quand on parle de musique en philosophie, quel concept on peut utiliser ?
Généralement, ça va toujours être un peu au-delà du concept. C'est des concepts qu'avouent leur propre impuissance, quoi. Des je ne sais quoi, on va parler de sensations, d'impressions. C'est d'ailleurs les plus capables, finalement, de parler de musique, c'est la tradition empiriste qui, justement, s'attache avant tout à l'impression. L'idée des impressions vives et des impressions faibles chez Hume, ça s'adaptera mieux. Et puis, on a aussi tous ces philosophes qui justement sont allés contre Kant, contre le mépris relatif de Kant pour la musique.
Il la trouve quand même agréable.
Il la trouve agréable, mais c'est peut-être la pire chose qu'on puisse dire. Moi, en sortie d'un concert, je déteste qu'on me dise que c'était sympa. Sympa, ça, c'est le. J'aimerais autant qu'on trouve ça détestable, quoi. Parce que, au moins, il y aurait un effet un peu plus, une intensité plus forte. Donc il y a le je ne sais quoi, le vocabulaire de l'impression, et puis sinon on bascule chez des gens plus romantiques, à la Nietzsche ou à la Schopenhauer. Enfin, au contraire, pour Schopenhauer, c'est le plus grand des arts, enfin le plus élevé des arts. Et donc chez Nietzsche, moi je trouve ça très parlant quand il oppose l'Apollinien et le Dionysiaque en musique, entre une musique harmonieuse, réglée, presque rationalisée, presque mathématique, et puis la musique qui serait vraiment un art purement apollinien, comme justement indomptable par quelque forme rationnelle que ce soit.
D'ailleurs, Anaïs, je crois que tu nous as choisi un petit extrait donc sur Nietzsche et Wagner. Peut-être qu'on pourrait l'écouter tout de suite.
Allez, c'est parti.
Le rapport de Nietzsche à Wagner est entièrement déterminé par toute l'évolution de son évaluation de la culture. Ouais. Et il va s'agir à la fois vraiment de configuration physiologique, psychologique, morale, autour de la question du nihilisme. Et ça va accompagner vraiment toute la pensée de Nietzsche. Parmi les derniers ouvrages, enfin, Le cas Wagner et Nietzsche contre Wagner sont des ouvrages extrêmement importants. Et par ailleurs, il y a évidemment toute cette dimension biographique. Nietzsche a été profondément blessé et profondément déçu par l'évolution de Wagner.
Alors, on vient d'entendre un philosophe qui s'appelle Dorian Astor, interrogé par Raphaël Enthoven sur Arte. C'est un bonus à l'émission de Raphaël Enthoven sur Arte, de l'émission philosophie. Donc, est-ce qu'on peut dire que la musique de Wagner a influencé la philosophie de Nietzsche ?
Ah oui, c'est un peu la théorie qui est défendue. En fait, le livre qui marque un peu ça, c'est... Enfin, il y a le livre du désamour de Nietzsche pour Wagner, c'est La naissance de la tragédie. Mm-hmm. C'est justement le moment où, en gros, il dit ce qu'il a cru voir dans Wagner, une musique véritablement dionysiaque, et que finalement, il n'y a pas trouvé. Il y a trouvé un romantisme un peu rigide, finalement. Donc, le rapport de Nietzsche à Wagner, c'est un rapport d'amateur de musique qu'on retrouve aujourd'hui souvent, quoi. C'est les grandes passions qui se retournent en attitude de hater au moment où aussi il y a un grand succès, parce que c'est aussi ça, c'est le premier grand succès industriel à échelle comme ça, pyrotechnique. c'est Bayreuth, quoi. Donc Nietzsche qui est à la fois qui est une figure très moderne pour ça, fascinée par la nouveauté de Wagner, par le côté assez sauvage sauvage tout à coup qui surgit dans une civilisation un peu fatiguée d'elle-même. Et puis qui voit tout de suite aussi comment ça se rigidifie dans quelque chose de bourgeois, quoi. Et ça, c'est très, très moderne comme expérience.
D'accord, donc tu parlais de Nietzsche, tu as évoqué également Schopenhauer. Est-ce qu'il y a vraiment un philosophe qui serait incontournable quand on veut traiter la question de la musique en philosophie ?
Oh, c'est difficile à dire, mais de fait, Nietzsche, je pense que c'est une super lecture, quoi. La naissance de la tragédie, c'est vraiment un très beau texte. Après, moi, j'ai beaucoup travaillé sur Adorno, et il a une posture assez particulière, parce que c'est un moderniste un peu rigide, lui aussi, pour le coup, qui est très, voilà, qui a beaucoup défendu Schoenberg contre tout néoclassicisme, toute attitude un peu hétéroclite en musique, enfin, toute esthétique un peu plus ouverte en musique, mais qui, par exemple, moi, je trouve des choses passionnantes, justement, sur la pop, qu'il déteste, mais il... dès les années 40, c'est le début, mais il arrive à énoncer des choses qui, je trouve, sont encore signifiantes aujourd'hui. Donc, je pourrais y revenir, mais c'est une très bonne lecture aussi, Adorno. Son livre sur Mahler, c'est très beau, Philosophie de la nouvelle musique. Il y a un petit texte peut-être plus abordable qui s'appelle Le fétichisme dans la musique ou la régression de l'écoute, avec un long à rallonge. Voilà, mais qui a un texte terrible, très très bien.
D'accord. Et qu'est-ce que la musique peut en elle-même apporter à la philosophie ? Est-ce que des philosophes qui sont nourris, alors on a vu Nietzsche avec Wagner, effectivement, mais qu'est-ce que la musique peut apporter à la réflexion philosophique en elle-même ? Puisque c'est vrai qu'on peut identifier un espèce d'antagonisme entre la philosophie qui crée des concepts et qui utilise la rationalité, on peut dire froide, et voilà, la logique, etc., et la musique qui en appelle plus à la sensation, même s'il y a tout un savant procédé qui vient juste avant la création musicale. Est-ce que la musique peut influencer la philosophie ? Qu'est-ce qu'elle lui a apporté ?
Je pense qu'elle lui apporte en tant qu'autre. Ce qui est sûr, c'est que la philosophie, elle a toujours besoin d'un autre. Enfin, c'est toujours compliqué de se dire que la philosophie ne campe que sur l'abstraction. Si on est intéressé par la philosophie, c'est que généralement on veut capturer des choses avec les concepts, mais ces choses, c'est des choses autres. Et la musique, pour le coup, est un objet fascinant qui donne sens à la philosophie, au sens où c'est justement un objet qui ne se laisse pas saisir, et donc il faut la réflexion, elle peut être infinie, mais il y a des formes de philosophie dont je n'ai pas parlé, mais la phénoménologie, par exemple, s'est prêtée assez bien à l'interprétation de la musique, et une interprétation qui ne l'enferme pas dans un concept. Donc la musique, elle donne une matière... extrêmement riche, quoi, tout simplement, à toute enquête conceptuelle, quoi. Et puis voilà, il y a vraiment l'idée d'un autre, quoi. Et la philosophie aime bien se trouver des autres. Enfin, moi, j'aime bien la dialectique en philosophie, donc j'aime bien le négatif, au sens, l'altérité, quoi.
Donc la musique serait un des grands hôtes de la philosophie, quoi.
Ouais, mais qui justifie qu'on philosophe. Mais en revanche, alors, tu vois, il y aura des philosophes, je sais pas, Deleuze, tu vois, ou même Nietzsche le fait un peu, à l'idée que la musique va s'intégrer à l'écriture philosophique. Comme si on écrivait un peu dans une de façon artistique la philosophie. Moi, ça, j'ai jamais trop cru à cette la philosophie pourrait fusionner avec la poésie. Je trouve le philosophe, il reste philosophe, quoi. Et puis il peut très bien rendre compte de façon extrêmement profonde de poésie ou de musique, mais quand la philosophie qui prétend faire de la musique, je trouve que c'est un peu gâcher la musique, quoi.
Et l'inverse, la musique qui prétendrait faire de la philosophie.
Eh ben pareil, ouais, pareil. J'ai un peu les deux parcours et je veille, enfin autant que possible, à comment dire. Quand je pense en musique, j'essaie d'être d'un point de vue musical. Enfin, je veux pas téléporter des concepts philosophiques, en tout cas explicitement, quoi. Dans mes paroles de chansons, par exemple, je trouverais ça super lourd. Oui. Tu vois.
C'est marrant, mais
ça pourrait être marrant, mais voilà, tourner en dérision, c'est oui. Ça. Mais s'il y avait pas ce petit
quelque chose comme les inconnus là sur la déliction, ouais, ce genre de truc, voilà. Mais effectivement, peut-être que sinon ça marche pas très bien.
J'ai des copains qui connaissent ces trucs par cœur. Attendez, c'était quoi déjà ? Ils utilisaient des termes. Ouais, enfin des faux trucs, un faux truc existentialiste. Ouais. Bien sûr que ça interfère, c'est de la pensée. Enfin, je pense aussi que l'art c'est de la pensée, la musique c'est de la pensée aussi. Mais qu'en tout cas mimer la musique en étant philosophe, ça se fait. Il y a des philosophes qui font ça. Mais je trouve ça un peu usurpé. J'y crois pas trop.
D'accord. Est-ce qu'on apprend un peu la philosophie de la musique à l'université? Comment, c'est quoi? C'est dans un master spécialisé sur l'esthétique?
En esthétique, moi j'ai donné des cours d'esthétique comme ça, mais c'est vrai que tu as raison de citer Kant au début, c'est très représentatif de la philosophie en général, qui est très concentrée sur les arts du langage et de l'image. Et effectivement, moi, j'ai donné un cours sur la naissance de la tragédie, mais j'ai pas le souvenir en tant qu'étudiante d'avoir suivi des choses vraiment sur la musique. Mais si ça avait lieu, je pense que ça serait dans le domaine de l'esthétique, oui. Mmh. Et par exemple, sur la pop, il y a rien. Enfin, ça n'existe pas, quoi.
Du tout. C'est un terrain qui est inexploré encore.
Je travaille sur ça et... j'ai pas de poste à la fac, quoi. Et au CNRS,
c'est ouais. Un petit appel.
Ça fait 2 ans, 3 ans que je présente un truc au CNRS et à chaque fois ils me regardent. Puis ils vérifient là sur le CV, ils se disent bon, elle a l'air sérieuse quand même, mais
pourquoi elle travaille sur
ce quoi
sujet.
Nous parle-t-elle, quoi. Et t'as envie de leur dire, mais les gars, ça fait 70 ans que ça se passe, quoi.
Je vous jure que c'est un thème qui peut être abordé par
et la Et c'est très français. Enfin, c'est-à-dire que dans le monde anglo-saxon, ça fait 40 ans qu'on réfléchit à la pop, quoi. Enfin, dans le milieu académique.
Le milieu académique français est assez frileux. Hein.
Il faut
une reconnaissance.
Ouais.
Et surtout, la pop culture en général, maintenant, commence à être vraiment étudiée.
Bien sûr. Et c'est extrêmement dommage. On prend un retard terrible, quoi.
Mmh. Bah oui, c'est toujours le problème de l'enseignement à la française.
Anaïs, après, il a plein de qualités. Hein, d'une certaine rigueur pour... enseigner aussi aux États-Unis, enfin voilà, il y a des trucs, justement il y a une force, quoi, en France. Même les philosophes qu'ils admirent, c'est souvent des philosophes français. Donc, mais bon, voilà, pour côté pop culture, on n'est pas les plus doués. Ouais.
J'avais une citation de Schopenhauer, donc extraite du livre Le Monde comme volonté et représentation. Donc Schopenhauer nous dit « La mélodie, la voix chantante, représente le jeu de la volonté raisonnable. Elle nous dit son histoire la plus secrète, elle peint chaque mouvement, chaque élan, chaque action de la volonté, tout ce qui est enveloppé par la raison sous ce concept négatif si vaste qu'on nomme le sentiment, tout ce qui refuse d'être intégré sous les abstractions de l'idée. » Alors finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'il y a un espèce d'antagonisme entre musique et philosophie? Parce que justement, ce qui a trait à l'abstraction de l'idée, on est vraiment dans le concept, et beaucoup moins dans le sentiment. Est-ce qu'il n'y a pas une opposition justement entre une rationalité un peu plus froide, comme on disait tout à l'heure, et une sensibilité qui ne se laisse pas saisir?
Oui, je pense que c'est, en tout cas, c'est un peu le... la donne de départ. En même temps, tu vois, par exemple, Adorno, là, toute cette théorie du modernisme, il sensibilise aussi pas mal au fait que un art, c'est aussi des prises de position culturelles, historiques. C'est un certain rapport à un matériau. Enfin, par exemple, en musique, bah, t'as un certain rapport à la gamme. Ou, je sais pas, quand t'es musicien pop, t'as un rapport pensé à ce que c'est que l'enregistrement, à ce que c'est qu'un son de saturation, un son de guitare saturé, ça signifie des choses. Enfin, donc tout ça, c'est de la pensée. Enfin, tu vois, c'est pas vrai que c'est de la pure... pur éther, quoi. Ouais, la musique, c'est pas du pur éther, c'est aussi des prises de position, des partis pris esthétiques, des habitudes. Donc ça aussi, les habitudes, c'est pas du concept, mais c'est quelque chose qui est aussi réifié, c'est quelque chose qui est sédimenté. Donc la philosophie, avec ses concepts, elle peut aussi servir à faire éclater les sédimentations. Donc peut-être qu'au départ, effectivement, il y a cette opposition, et puis qu'il y a une opposition, en gros, de la philosophie avec l'expérience en général, tu vois, au fond, que ça soit musique ou sexe, ou, enfin, tu vois, ou, je sais pas, moi, ou sentiment amoureux, enfin, de toute manière, il y a cette étrangeté entre la réflexivité et puis l'immédiateté de l'expérience. Mais la musique, est-ce que c'est que l'immédiateté? C'est ça qui est intéressant, on va se dire, tiens, en fait, la musique, c'est beaucoup de choses sédimentées, au contraire.
Thank you.
Baya de l'Agonia, vous êtes sur Radio Campus Paris, vous êtes dans Déshabillez-moi.
Déshabillez-moi.
Et donc Agnès, voilà, j'ai dévoilé ton prénom, ça y est. Agnès, tu as ramené un texte que tu vas nous lire tout de suite.
Ouais, alors je vais pas le lire en entier parce que c'est une nouvelle qui fait 12 pages.
Et c'est, on sera encore là demain, voilà, c'est demain ça. Matin.
Peut-être pas, mais bon, voilà, ce serait un peu long. Donc je vais juste simplement lire le début de cette nouvelle. C'est une nouvelle d'un auteur de science-fiction qui s'appelle Greg Egan, qui est australien. Et c'est une nouvelle qui a été publiée originellement en 89. Et voilà, Greg Egan, c'est plutôt un chouette auteur parce que... on ne sait pas du tout qui c'est. On a 3 photos floues de lui. Il n'a pas de Facebook. Et il fascine des milliers de fans parce qu'il écrit d'excellentes nouvelles. Donc 3 volumes qui s'appellent Axiomatique, Radieux et Océanique. Et cette nouvelle est extraite d'Océanique et elle parle de musique. Et donc je vais la lire. Elle s'appelle Mortelle Ritournelle. Bon, vous allez voir, c'est un peu technique. C'est un auteur de art connu pour être auteur de art science. Donc, c'est cette branche de la science-fiction qui se veut très précise sur les technologies utilisées. Il est connu pour ça. Il est connu pour être crédible sur ça, ce qui n'est pas le cas de tous les auteurs de art science. Donc, Michael Underwood, consultant en musique créative pour l'usine à Inspiration, ne put s'empêcher de jeter un œil discret à sa montre. Il lui restait encore du travail pour la campagne Hypersoft, laquelle se devait d'être terminée le jour même, et l'après-midi filait déjà. Underwood écoutait John Albright depuis 20 minutes. Il ne savait toujours pas en quoi ce que représentait le président de la société de neurocartographie appliquée était la plus belle mine d'or publicitaire depuis que le département du Trésor avait accepté de vendre des emplacements à hologrammes sur le billet de $10. Albright remarqua son geste, s'arma de courage et recommença. « Vous avez bien compris que nous avons identifié les circuits neuronaux impliqués dans le traitement de la musique. » L'idée déplaisait à Underwood, mais il hocha tout de même la tête. « Avec la tomographie à émission de position, et j'en passe. Mais lorsque vous dites les circuits neuronaux, tous les cerveaux ne sont pas identiques, sinon comment les gens pourraient-ils avoir des goûts musicaux différents? Cela doit dépendre de la culture et de l'éducation, et en fin de compte de l'ensemble des expériences musicales précédemment vécues. Bien entendu, loin de moi l'idée de nier cet aspect des choses. Des facteurs nombreux et variés, la plupart liés au milieu, quelques-uns d'ordre génétique, exercent bien sûr un effet profond sur les structures impliquées. Nous avons scanné plus de 2000 volontaires représentant une variété immense de préférences musicales et mis en évidence des particularités individuelles dans leur circuit qui dépassent de très loin la diversité qu'on trouve au niveau des empreintes digitales ou rétiniennes. Malgré cela, nos logiciels ont pu déterminer les caractéristiques communes, les éléments partagés par les circuits neuronaux concernés de tous nos sujets, quelles que soient les subtilités qui les différencient. Pensez donc à la circulation. Au niveau des capillaires, il n'y a pas 2 personnes semblables, mais à l'échelle des artères et des veines principales, tous les individus se ressemblent et le système sanguin fonctionne pratiquement de la même façon. Bien sûr, abstraire le comportement d'un ensemble de neurones est autrement plus complexe. Ce n'est pas une question de taille physique, mais de topologie. C'est néanmoins faisable. Underwood hocha à nouveau la tête, toujours mécontent, mais bien obligé de s'en remettre à l'expert. Maintenant que nous avons créé un modèle mathématique bien défini de l'auditeur de base, dit-il, nous sommes en mesure de déterminer sa réaction à n'importe quel schéma de données en entrée, n'importe quelle séquence de son, n'importe quel morceau de musique. Vous voyez ? Oui, mais si votre système se résume au comportement de n'importe quel auditeur, à quoi sert-il ? Vous pourriez tout aussi bien écouter les sons vous-même et voir comment vous réagissez. Albright secoua la tête. Il reprit sur un ton patient. 2 choses. D'abord, les complications liées aux goûts individuels sont supprimées. Expérimenté sur le modèle numérique, c'est un peu comme si on faisait des essais sur les 2000 volontaires à partir desquels il a été construit, pour voir la réponse moyenne du groupe pris dans son ensemble. Avec pour avantage que c'est beaucoup plus rapide, plus facile et moins cher. Ensuite, du fait de l'extrême précision du modèle, nous ne sommes pas réduits à lui jouer des airs au hasard pour en examiner les effets. Nous pouvons utiliser diverses techniques mathématiques pour travailler à rebours, pour fabriquer de la musique destinée à affecter le modèle d'une façon spécifique et prédéterminée. Underwood fronça les sourcils. « Je vois bien la première application. Si nous voulons tester une mélodie pour une ritournelle publicitaire, il suffirait de la passer à l'ordinateur. Et si elle lui plaisait, vous avancez que le monde entier l'aimerait également. Mais Oh là, non, 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 nous ne prétendons pas ça du tout. Le modèle n'est pas en train d'aimer ou de ne pas aimer quoi que ce soit. Même s'il était possible de définir ce type de réaction, comment en serait-il capable ? Ces caractéristiques sont partagées par des gens qui ont des goûts musicaux extrêmement différents, qui peuvent même parfois s'exclure mutuellement. Ce que le modèle peut effectivement faire, c'est se rappeler la musique. Nous ne l'avons pas limité aux structures responsables de la perception en temps réel. Toute la machinerie de la mémoire auditive à court et à long terme est incluse. Donc, si une mélodie provoque une réaction forte et durable chez le modèle, nous pourrons prédire que la même chose se produira pour un véritable auditeur. La musique sera mémorable. Nous avons fait une douzaine d'expériences pour vérifier et il n'y a pas le moindre doute. Ça fonctionne. Et cette musique que vous avez fait créer à l'ordinateur, à quoi sert-elle ? Vous dites que la machine n'a pas d'avis, ni dans un sens ni dans l'autre. Mais les gens, alors, qu'en pensent-ils ? Albright eut un sourire large et satisfait. Certains l'adorent, d'autres la détestent. Mais qu'ils l'aiment ou qu'ils l'exècrent, ils ne peuvent se la sortir de la tête.
Merci beaucoup. Merci Agnès pour ce texte. Alors pourquoi avoir choisi ce texte spécifiquement ? Pourquoi une œuvre de fiction, justement, et pas une œuvre philosophique ?
Parce que déjà, j'adore la science-fiction.
D'accord.
Et que c'est hyper philosophique. Pour le coup, quand j'ai passé la grecque de philo, je lisais plein de romans de science-fiction et c'était très bien en fait pour faire fonctionner l'esprit de manière assez philosophique. Enfin, il m'a semblé, quoi, c'est ma petite légende.
Voilà une thématique pour une prochaine émission.
Voilà, science-fiction et philosophie, c'est intéressant. Est-ce que tu peux nous aider justement à dégager un peu les enjeux philosophiques qui sont abordés par ce texte ?
Ouais. Alors, c'est vraiment de la hard science. Bon, je trouve que c'est pas hyper bien traduit, je m'en excuse, hein, c'est un peu rigide comme traduction, ça fait trois fois que j'emploie le mot rigide, mais c'est pas
ça. Ce sera le terme de cette émission, rigidité.
Oh heureusement qu'on parle de musique. Non, mais c'est pas très bien traduit, c'est un petit peu heurté. Et surtout, bon, c'est de la hard science, donc il prend soin d'être très technique. Mais là, ce que j'adore dans cette nouvelle, c'est que c'est un dispositif qui consiste donc à placer donc ce personnage-là qu'on rencontre en train d'échanger avec donc le créateur d'une machine qui va être capable de déterminer si oui ou non un morceau de musique est mémorable, efficace ou non. Et cet homme-là, c'est un mélomane en fait. Il aime la grande musique, il aime Beethoven, il aime Mozart, enfin... Et toute la nouvelle est un petit peu la progression inexorable et terrible pour lui de cette conscience qu'en fait, l'expérience de la musique est une expérience cognitive et non pas une expérience forcément liée à une sensibilité supérieure ou à une culture supérieure, mais vraiment une expérience cognitive fondée sur la reconnaissance. Et donc, c'est un réductionnisme qui est propice à la mise en circuit du truc, à la mise en algorithme des goûts, mais qui est terrible pour un mélomane, en fait. L'idée qu'on puisse comme ça réduire justement toute la beauté qui est placée dans la musique à des formules. Au fond, ça, tout cela ne peut se résumer à des formules mathématiques et à des formules, un algorithme de plus ou moins grande efficacité. Et je trouve que c'est... qui fait de la pop, enfin, c'est une expérience ça radicalise une sensation qu'on peut avoir quand on fait de la pop, parce que quand tu composes une chanson pop, tu es à la recherche d'une certaine efficacité. C'est ça qu'on aime aussi, tu vois. C'est, même si tu fais à moins de faire vraiment une pop très avant-gardiste, mais est-ce que c'est encore de la pop du coup ? Et tu es sans cesse donc confronté au fait que tu veux mettre une vérité musicale dans quelque chose dont tu sais qu'il est quand même déterminé cognitivement. Et tu sais que toi-même, tu vas trouver la chanson bonne parce qu'elle va te rappeler des trucs que tu aimes. Donc ce soupçon que la musique n'est qu'une petite configuration comme ça bien adaptée à tes capacités de reconnaissance, c'est une expérience d'humilité terrible pour un compositeur et qui arrive là, la nouvelle le montre aussi, il peut arriver même au sein de la grande musique, mais qui arrive d'autant plus quand tu fais de la pop, parce que tu as cette double exigence de, voilà, d'être efficace, d'être mémorisable et en même temps de proposer quelque chose de singulier.
Est-ce qu'on fait fi des émotions ? Alors dans ce cas-là, elles sont où les émotions qu'on peut ressentir à l'écoute de la musique ?
Ouais. Bah, je pense qu'évidemment, elles existent. Tu vois, c'est ça qui est terrible aussi dans la nouvelle. C'est-à-dire que c'est pas parce que la machine, elle, n'a pas d'émotion et qu'elle perçoit juste ce qui est efficace. L'émotion, c'est ce qui est brodé autour d'une efficacité, mais l'émotion en fait c'est une richesse que l'auditeur apporte lui-même, mais qui est pas dans l'idée, tu vois, qui est pas finalement dans la musique elle-même. La musique elle va simplement servir d'appât pour susciter des émotions que les gens vont. C'est la richesse de leur propre vie qui va nourrir la musique. Et c'est aussi ça, la pop. Il n'y a pas d'amour de la pop qui ne soit lié à une biographie individuelle, à une expérience individuelle, à un souvenir. Donc je trouve que... Enfin, j'avais beaucoup aimé cette nouvelle pour ça. Enfin, je vous recommande de la lire quand même jusqu'au bout, parce que c'est une espèce d'expérience de pensée, quoi, et radicale de cette toute petite chose qu'est la pop en termes artistiques. Et en même temps, moi, je suis convaincue que c'est un art. Et que c'est ça aussi, c'est une forme de miracle. C'est que sur des formats courts, de 3 à 4 minutes, de faire des chansons qui sont... peut-être, qui fonctionne peut-être toujours sur les mêmes bases, mais qui arrive à être singulière. On arrive à reproduire, à réinvestir tout à coup une spontanéité humaine qui va créer un hook, qui va créer une fascination, un attachement, alors même que on a un espace de 1 mètre cube pour créer un truc nouveau.
Mais ça, on pourrait dire que tout est épuisé, qu'on a déjà essayé toutes les possibilités que la pop nous offrait et qu'en réalité, en fait, c'est inépuisable quelque part.
Tu sais, j'avais vu sur Internet un groupe de recherche espagnol qui a fait comme ça, qui a listé toutes les combinaisons possibles d'accords et qu'en fait, on arrive à épuisement. Enfin, tu vois que c'est bientôt fini, en gros, d'accord, si on calcule. Mais c'est une aberration parce que la pop, c'est pas que des accords, c'est des façons d'enregistrer, c'est des intonations vocales. Donc ça, il suffit que, tu vois, à un moment, la pop dominante, ça devienne la pop chinoise, et tout à coup, tiens, tu vois, il y a des ressources infinies qui sont aussi celles du langage, de la parole. Et là, la musique aussi rejoint tout simplement la parole et la diction. Donc à mon avis, il y a encore plein de choses à faire.
Anaïs. Non, ça nous rassure. Justement, que dit la philosophie concernant le processus de création musicale ? Est-ce que la philosophie s'est positionnée un moment sur cette question ?
Je reviens toujours au même, hein, mais je pense que chez Nietzsche, il y a cette idée d'un quand même assez romantique chez lui, d'une inspiration. Enfin, en tout cas, d'une adresse au corps, justement, d'arriver à couper court à un rapport trop réflexif aux choses. Chez Adorno, tu vois, c'est hyper rationalisé, quoi. On arrive à un âge de la musique où on a épuisé le matériau tonal. C'est un constat qui est intellectualisable. Donc, une musique vraiment moderne, c'est une musique qui va lutter contre ça et donc qui va travailler à atonaliser la musique. Donc là, le processus, il est assez rationnel, tu vois, par exemple. Et il est décrit chez Adorno. Il y a le livre de... C'est assez intéressant, d'ailleurs, à ce propos, parce que le livre de Thomas Mann, qui s'appelle « Docteur Faustus », qui est sur... plus ou moins sur Schoenberg et en même temps sur Nietzsche. Et donc, ce Docteur Faustus, c'est un compositeur, plus ou moins inventeur de ce qu'a inventé Schoenberg, quoi. Et Thomas Mann avait demandé des conseils à Adorno, d'ailleurs, pour écrire les détails des partitions et tout ça, pour détailler les partitions, qu'il relate, quoi, si tu veux, dans le texte. Et en même temps, c'est en même temps Nietzsche, parce que donc ce Docteur Faustus, j'ai oublié son nom, Adrian Leverkun, il s'appelle dans le livre, a la syphilis, il devient fou, il devient facho. Enfin bon, donc et donc là, c'est marrant, on a les deux figures qui sont mélangées, une figure très romantique de la création et une figure beaucoup plus ratiocinante qu'a été Schoenberg, qui l'est pas systématiquement. D'ailleurs, il a fait des œuvres tonales. Et des œuvres très exaltées, mais disons, il est connu, son modernisme, c'est plutôt ratiocinant. Ouais.
On va faire une petite pause musicale. On a retrouvé le morceau dont on parlait tout à l'heure, dont on a oublié le nom, qui s'appelle Et vice versa des Inconnus. On va l'écouter tout de suite.
L'hémorragie de tes désirs s'est éclipsée sous l'azur bleu dérisoire du temps qui se passe, contre duquel on ne peut rien. Être ou ne pas être, telle est la question sinusoïdale de l'anachorète hypochondriaque. Mais tu dis que le bonheur est irréductible, et je dis, et il dit que ton espoir n'est pas si désespéré à condition d'analyser que l'absolu ne doit pas être annihilé par l'illusoire précarité de nos amours destitués. Et vice versa, et vice versa. Il faut que tu arriveras à laminer tes rancœurs dialectiques, même si je suis convaincu que c'est très difficile. Mais comme moi, dis-toi qu'il est tellement plus mieux d'éradiquer les tentacules de la déréliction. Et tout deviendra clair. Mais tu dis que le bonheur est irréductible. Et je dis, et il dit que ton espoir n'est pas si désespéré à condition d'analyser que l'absolu ne doit pas être annihilé par l'illusoire précarité de nos amours destitués. Et vice versa.
Et versa, et vice et versa, les inconnus sur Radio Campus Paris, vous êtes dans Déshabillez-moi.
Déshabillez-moi.
Je suis d'abord philosophe par défaut, parce qu'a priori, c'est musicien que j'aurais bien aimé être. Et même plus précisément, chef d'orchestre. Parce que j'ai raconté ça dans un ouvrage, ma mère était femme de ménage et a ramené un jour de l'endroit où elle travaillait un vieux tourne-disque avec quelques vieux disques et il y avait Bach, évidemment, chez mes parents, il n'y avait pas de musique, il n'y avait pas de théâtre, il n'y avait pas de bibliothèque, il n'y avait pas de culture. Et quand j'ai découvert cette musique-là, ça a été vraiment directement une saisie terrible, une émotion incroyable, avec tout de suite le corps qui s'est trouvé saisi. C'est-à-dire, immédiatement, on écoute Bach et on fait des mouvements jusqu'à ce qu'on comprenne qu'éventuellement, ces mouvements-là sont en relation avec la musique, qu'on peut la diriger, mais qu'elle peut nous diriger aussi. Donc l'idée que je puisse faire de la musique, c'est quelque chose qui ne m'a pas traversé l'esprit à l'époque parce que c'était pas possible dans la sociologie qui était la mienne. Et donc je n'ai pas appris à jouer d'un instrument, je n'ai pas pu être ou compositeur ou chef d'orchestre. Donc tout ça évidemment c'est passé à la trappe et j'avais les désirs qu'un petit garçon fils de pauvre a quand il a 10-12 ans et je voulais être chauffeur de train, voilà.
T'avais qu'à faire de la pop, nous dit notre invité.
Donc c'était, on vient d'écouter donc un autre philosophe, Michel Onfray, qui faisait part de son désir peut-être d'être chef d'orchestre et qui s'est vu, qui s'est heurté à un moment donné à une espèce comme ça de conditions sociales qui ne seraient pas finalement adaptées à la grande musique ou pour lui en tout cas son désir n'aurait pas été légitime. Donc Agnès, qu'est-ce qu'on peut dire justement de ce rapport entre classe sociale, conditions sociales et musique plus ou moins légitime ou désir plus ou moins légitime vis-à-vis de la musique.
Oui, c'est intéressant. Ce qu'il raconte là, il y a un petit côté pour faire verser une petite larme dans les chaumières. Mais,
souvent avec Michel Onfray, une tendance.
Mais ça paraît en effet tout à fait vraisemblable et c'est incontestable, oui, que... De même qu'on devient plus difficilement écrivain en naissant dans une famille où il n'y a pas de livre. Et encore, il y a plein de contre-exemples. Parce que finalement, l'écriture est peut-être, demande moins matériellement un papier, un crayon qu'un violoncelle. Mmh. Après, voilà, là encore, pour reparler du rock, c'est quand même ça qui est génial aussi dans cet art, c'est que c'est un art qui tout à coup s'est adressé à n'importe qui, quoi. Vraiment un art démocratique où voilà, les mods qui étaient des ploucs, des fils d'ouvriers qui ont voulu être élégants en toutes circonstances et qui ont pris des guitares électriques. Et c'est une des grandes beautés de cet art-là aussi, d'être assez ouvert, de même qu'aujourd'hui, voilà, le hip-hop, enfin, voilà, ça apparaît comme des arts qui sont accessibles sans pour autant être moins que des arts. C'est... Donc, oui, c'est sûr qu'il y a une sociologie de la grande musique, comme il dit. Même si c'est pas qu'une sociologie au sens où les pauvres n'y auraient pas accès, c'est aussi une culture. Peut-être que de même qu'on faisait jouer, les femmes jouaient toutes du piano au 19e siècle. C'est pas tant la limite des moyens matériels que certaines habitudes. Enfin, je pense qu'en Angleterre, par exemple, la musique pratiquée collectivement est beaucoup plus au cœur de la vie sociale, de la vie culturelle qu'ici. Beaucoup de séparation.
Est-ce qu'on peut revenir un peu sur cette distinction entre une musique qui serait une musique savante et une musique populaire, hein, qui est une distinction qui est là et qui est bien ancrée encore aujourd'hui.
Ouais, qui est bien ancrée, qui est ancrée institutionnellement d'une part, et qui en même temps, elle n'est pas ancrée que parce que la musique savante mépriserait la musique populaire. Elle est aussi ancrée parce que la musique populaire se méfie de la musique savante. Et quand il y a Pink Floyd à la Cité de la Musique, la plupart des amateurs de musique pop ricanent. Enfin, il y a quelque chose de perdu aussi. Et donc, on a une sorte de fantasme de la pop comme une musique qui serait non institutionnelle. Et c'est aussi pour ça qu'on est gêné de trop l'intellectualiser. Mais effectivement, il y a une ignorance crasse du côté de la musicologie savante. Pour la musique populaire, là encore, c'était marrant. Il y avait, je ne sais pas si vous aviez entendu parler de ça, il y avait une polémique au Collège de France, je crois que c'était il y a 2 ans, ou l'année dernière, je ne sais plus. Il y avait un professeur qui s'appelle Carole Beffa, qui est aussi musicien, chef d'orchestre.
J'avais suivi des échanges.
Voilà, et qui est quelqu'un de très, très ouvert, très, très cultivé, puis très, extrêmement doué, quoi, incontestablement, et en musique et philosophiquement. Et donc, qui défendait une position de néo-tonalité, en fait, en disant qu'en gros le modernisme avait étouffé pendant 50 ans, 70 ans la musique savante et qu'ils n'en pouvaient plus et qu'ils voulaient revenir à la tonalité. Et ça a fait polémique pour plein de raisons, je ne reviens pas dessus. Mais ce qui était frappant, c'est qu'on aurait dit, en entendant leur débat, que la tonalité n'avait pas existé pendant 70 ans dans le monde musical. Et on avait dit, Il y a la pop, il y en a plein qui font de la musique tonale, c'est juste que la musique tonale, elle est passée ailleurs, elle est passée dans cette musique populaire, enregistrée notamment, qui est la pop, le rock, reggae, enfin on peut imaginer tout. Il y a aussi une façon aussi de, quand on parle d'histoire de la musique, de ne jamais inclure la pop. Tout ça parce que c'est un art industriel, et bien sûr que c'est problématique, mais c'est passionnant, faut le penser, quoi.
Nice. Alors, une dernière question.
Une dernière,
ouais. Avant l'entretien psy de notre invité et le dévoilement enfin de son identité.
Alors moi, j'ai pensé à Platon, en fait, en préparant cet entretien, et je me suis dit, là,
Je pense toujours à Platon.
C'est bien, ça.
Pourtant, je n'apprécie pas forcément particulièrement ce philosophe, mais il est quand même incontournable. Et je me disais, justement, on parle là de musique plus ou moins accessible en fonction d'une certaine légitimité institutionnelle, académique. Voilà, est-ce que la philosophie politique aborde la question de la musique et qu'est-ce qu'elle en dit, en fait? Parce que je crois que c'est dans la République que Platon a des mots assez durs concernant les musiciens. Voilà, est-ce que
artistes en général,
les artistes, ouais, les
philosophies politiques, ouais, sinon c'est assez, c'est assez absent, à part à traiter la question de la non-urbanité de la musique, tu vois.
Dire qu'effectivement, ces jeunes qui écoutent leur musique trop fort.
Voilà, que ça dérange le voisin. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a un truc, il faudrait que je le relise, mais la lettre sur... je vais le retrouver. Mais c'est un texte qui imagine justement une politique esthétique. En gros, une entente, une communauté humaine qui serait pas fondée sur un contrat social, par exemple, à la Rousseau, mais fondée sur une communauté esthétique. Et parmi les arts, il y aurait la musique. Mais sinon, non, la philopolitique, non, elle ignore assez pleinement la musique. Enfin, me semble-t-il, j'essaie de passer en revue. Je n'ai pas souvenir que John Rawls dise quoi que ce soit.
Je pense plus, j'ai pas
à part sur le fait que les nations s'unissent aussi dans la musique, à part par exemple à étudier les hymnes ou la propagande, tu vois. Enfin, ces moments justement d'unité collective autour de la musique, ouais. On bascule peut-être dans la sociologie ou dans l'anthropologie que vraiment dans la philopolitique.
Effectivement. Eh bien, on va commencer à dévoiler ton identité. D'abord, en écoutant un morceau, parce que tu nous as un peu dit tout au long de cette émission que tu étais aussi musicienne et pas uniquement philosophe. On va écouter ça, puis on revient tout de suite après.
We'll be right back.
l'enfance. La Féline, vous êtes sur Radio Campus Paris dans Déshabillez-moi.
Déshabillez-moi.
Et donc, nous venons dévoiler en musique ton identité, Agnès. Tu es donc aussi la Féline.
Eh oui.
Eh oui. Donc, professeur, philosophe.
Ouais.
Pas professeur pour l'instant.
Pas en ce moment, ouais. D'accord. Pas en ce moment, je suis en dispo.
Ouais, donc, pas professeur de philosophie, mais philosophe et musicienne. Anaïs, tu as procédé à l'entretien psy. On a plus que quelques minutes pour déshabiller Agnès.
On se dépêche de déshabiller Agnès.
Ouais, il fait un peu froid.
Et en plus, elle est encore avec son blouson, quoi.
Ça risque d'être long.
Agnès, on n'a même pas dit ton nom, donc Agnès Guéraud, oui, quand même, qui est donc la chanteuse de La Féline qu'on vient d'écouter. Alors moi, j'aimerais savoir de quand date ton premier souvenir concernant une émotion musicale. Quelle est la première émotion musicale que tu as ressentie?
C'est bien cette question. Alors, mais c'est primitif. Bon, je pense que c'est le chant de ma mère. Ma mère est andalouse et elle chante souvent elle n'est pas du tout chanteuse professionnelle, mais des villancicos ou des cantes rondos, c'est des petits types de chansons, de Noël ou de... Et ouais, ma mère qui chante en espagnol, a cappella comme ça. Vraiment.
D'accord, donc un souvenir lié à l'affect aussi, quoi.
Ouais, complètement.
La dimension de la musique. Est-ce que ton travail de philosophe nourrit ton activité musicale? Et si oui, comment?
Au départ, j'ai vraiment toujours essayé de séparer, justement de pas essayer de philosopher dans ma musique. Et d'ailleurs, je veux continuer de ne pas vouloir le faire. Enfin, on a entendu la chanson, là, c'est des paroles assez simples, mais justement en français, je trouve ce qui est dur, c'est d'être direct. Donc j'ai à la fois beaucoup travaillé pour arriver à des paroles simples. Mais par contre, depuis quelque temps, j'ai un blog qui s'appelle Moderne, c'est déjà vieux, où j'exprime un peu un rapport plus intellectualisé à la musique. J'écris des textes sur des gens que j'aime, sur des gros trucs aussi. J'écris sur Kanye West, Lana Del Rey. Et c'est une façon de réconcilier un peu les deux parties de mon cerveau. Et après, profondément, je pense que quand tu fais de la musique, tu y réfléchis. Ça ne veut pas dire que tu philosophes, tu vois, t'es forcément dans une posture philosophique, mais tu y réfléchis. Même si tout le monde n'a pas la même aisance avec le langage, il n'y a pas de musicien qui fasse un truc personnel en musique qui est un peu une pensée de où on se situe historiquement, quels sont les groupes importants, pourquoi. Donc voilà, c'est, disons que le lieu de passage, c'est ça, c'est la réflexion sur la musique.
Mmh. Okay, dernière question m'oblige. Est-ce que on a parlé un peu de l'opposition qu'on pouvait trouver entre rationalité et sensibilité, que la musique serait plus du côté de la sensibilité, mais avec un travail éventuellement de pensée, de rationalisation aussi dans le processus de création. Est-ce que à un moment t'as pu sentir que l'exercice intellectuel qui était rendu nécessaire par ton activité de philosophe pouvait venir faire obstacle à ta créativité?
Ouais, c'est possible. En tout cas, si je m'appelle la Féline sur scène, c'est-à-dire du nom d'un animal qui est plutôt orienté, vers une forme de mystère, de sensualité, de sauvagerie, tout ça, ça va beaucoup contre le concept et la personne réservée que je peux être. Enfin, je sais pas si réservée, mais par exemple, je suis un peu gauche dans la vie. je suis du genre à faire tomber des trucs et tout. Et
tu n'as rien renversé. Mais
les félins, c'est le contraire, tu vois. Donc pour moi, c'est un programme de libération aussi de mon côté très conscient, très lucide et un peu gauche. Et donc, du coup, ouais, j'assume cette antithèse que tu décris depuis tout à l'heure. Là-dedans aussi, si je fais du rock, en tout cas, c'est pas pour présenter une deuxième fois la personne sociale limitée par des tas de choses, par une certaine conscience, qui existe déjà. C'est pour trouver autre chose. Et effectivement, comme il faut manger et que la musique fait pas toujours manger, bah j'enseigne, je suis la plupart du temps cette personne sociale. Et oui, ça me prend du temps sur peut-être des nuits que je devrais passer avec un micro et un enregistreur et ma guitare et pour vraiment trouver des choses. Ouais. Donc, mais c'est en termes de temps, je dirais. Parce que peut-être que si j'avais pas ce contrepoint dans ma vie aussi, peut-être que j'éprouverais moins intensément aussi le besoin de m'en arracher.
Eh bien, merci beaucoup, Agnès. Merci. Est-ce que tu as quelques secondes pour nous donner tes actus? Il y a des choses qui est il y a un disque qui est sorti il y a pas longtemps.
Oui, voilà. Alors il y a un disque qui vient de sortir qui s'appelle Adieu l'enfance, qui est sorti le 25 novembre. Normalement, il est on peut le trouver dans toute la France. Bon, alors je sais pas si c'est vraiment le cas, mais essayez.
On ira voir pendant les vacances de Noël.
Voilà, essayez. Il y a un très beau livret dedans. Enfin, je suis contente de la façon dont ça rend. Il y a un texte et tout à l'intérieur. Des belles photos. Et normalement, on va faire bientôt des dates. On joue à la radio, à France Culture, le 23 janvier. Ce 22 décembre, on joue sur France Inter, en live, dans l'émission d'Alain Manoukian. Et puis après, on joue au festival Les Embellis de Rennes en mars. Puis après, j'ai un site qui s'appelle lafelinemusique.com où il y a toutes les infos.
D'accord. Et un livre qui sort bientôt sur la pop-musique.
Et un livre que je suis en train de finir. Alors bon, là, je suis un peu Shiva, donc j'ai pas eu le temps de boucler tout ça. Mais normalement, je boucle ce bouquin sur Adorno et la pop en janvier.
Super. Eh bien, on tiendra nos auditeurs informés. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous, c'était super.
Merci Agnès, merci Anaïs et merci à Léa, la réalisation. Et puis merci, nous, on vous donne rendez-vous dans un mois. On ne sait pas de quoi on va vous parler dans un mois.
Non, on verra.
Mais on sera là.
Inspiration.
C'est ça. Bonne soirée sur Radio Campus Paris.